Bienvenue à la table ronde critique de Vive le cinéma sur Aligre FM 93.1, une heure de discussion sur quelques films actuellement ou prochainement dans les salles. Bernard Payen au micro avec Pierre Charpillot et Benoît Bazirico, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Salut.
Cette émission est réalisée par Enrico Mastro Giovanni et Ludana Farina.
Et comme toujours, on commence par en musique, par la première musique illustrant le film dont on va parler tout de suite.
Ah, j'ai pas donné les détails des...
Des notes lancinantes composées par Nicolas Becker et Quentin Sirjac, notes lancinantes avançant comme des vagues pour illustrer ce film insulaire qu'est Belladone.
D'un film d'Alante cavaillé dans un futur proche sur une île coupée du monde, Gaël, 30 ans, prend soin d'un petit groupe de personnes âgées. L'arrivée d'un voilier fait revenir joie et vie sur l'île. Pourtant, Gaël doute des intentions des voyageurs car les anciens se mettent à mourir les uns après les autres. Un étonnant film de science-fiction français. Qu'en avez-vous pensé, Benoît, Bernard?
Alors justement, Alante Cavaillé était ici même dans ce studio la semaine dernière. Donc moi, je vais en penser du bien puisque j'ai invité donc Alante dans La Nuit Américaine. Donc Belladone, c'est un film pour moi qui fonctionne à plusieurs niveaux. C'est à la fois effectivement, comme tu le disais, une sorte de conte dystopique qui se passe en 2050 sur une île, qui interroge la fin de vie. Donc il y a un aspect whodunit métaphysique, parce que ces sept vieux qu'on trouve sur l'île et dont s'occupe le personnage de Nadia Tereskevics disparaissent les uns après les autres. On ne sait pas trop pourquoi, on peut se douter peut-être que ces deux personnages qui arrivent d'un seul coup, des personnages étrangers qui arrivent d'un seul coup sur l'île, ils sont pour quelque chose. Il y a notamment Daphne Pataka qui incarne très bien cette ambiguïté-là. Donc on peut y trouver son compte de plusieurs façons, je pense, dans ce film. Sur un aspect purement thriller, policier, sur un aspect spirituel, épicurien aussi. Puis il y a cette idée que, puisque ce sont nos derniers jours, autant en profiter pour vivre, se bourrer la gueule ou faire du sexe. Donc ça donne des dialogues sans filtre, parfois, des personnages heavy, qui est joué par Alexandra Stewart, dit du jeune homme incarné par Dali Ben Salah, t'as vu, il a un beau corps. Donc voilà, c'est une sorte de... C'est des dialogues comme ça, qui sont assez frontaux par certains personnages qui incarnent à chaque fois des choses très spécifiques. Alexandra Stewart, c'est la beauté, ça se superpose d'ailleurs à ce qu'elle représente comme actrice, qui est une actrice à la filmographie magnifique, qui jouait notamment chez Louis Malle. Et on pense d'ailleurs à un film fantastique très étonnant de Louis Malle qu'il a fait à cette époque-là, qui s'appelait Black Moon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque acteur, on a aussi Jean-Claude Drouot, Miu Miu, Patrick Chéné, Féodor Atkin, pour ne citer qu'eux, ces acteurs qui incarnent les vieux, incarnent aussi... des personnages qui sont traversés par leur propre filmographie d'acteurs, d'actrices. Voilà. Et quand vous avez ce plan à la fin des trois acteurs qui montent une petite colline et qui nous disent au revoir, je trouve que c'est assez poignant parce que c'est comme s'ils disaient au revoir à ceux qui ont suivi leur carrière, leur filmographie. Donc c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et puis le film, enfin, une autre strate du film, c'est qu'on peut le voir évidemment comme faisant écho au précédent film d'Alante Cavaillé, donc des personnages féminins qui font toujours des choses plus grandes qu'elles, qui sont aussi en deuil de la mère. C'est le cas de ce personnage de Gaël dans Belladone, mais c'était le cas aussi de Charlotte dans Écoute le temps. Charlotte qui était un personnage joué par Émilie Dequesne, qui a une vraie cohérence d'œuvre, qui est née du fait aussi que la réalisatrice a perdu sa mère assez jeune et a bâti plusieurs de ses récits sur ce deuil initial. Donc c'est un film qui n'est pas parfait, mais dont la richesse thématique et formelle, notamment le son, l'image aussi, qui est signée du chef-op de Mélancolia, Manuel Alberto Claro, m'a fasciné en tout cas.
Très bien, je vais apporter peut-être mes réserves avant que Pierre peut-être rééquilibre dans le sens positif, évidemment.
Benoît, tes réserves.
Elle était invitée la semaine dernière, donc tu en as dit le plus grand bien, et moi, n'en pensant pas le grand bien, je suis bâillonné, non je rigole.
Certainement pas, c'est pour ça qu'on
donc,
fait ce débat.
Non, je blague. En tout cas, j'ai une grande sympathie pour le cinéma de Alante Cavaite, et ce film regorgeait de beaucoup d'ingrédients qui pouvaient recueillir ma sympathie et mon adhésion, notamment donc le casting. Alors moi, je me suis plus intéressé aux deux jeunes actrices, Daphné Pataka, que j'avais découvert chez Tony Gatliffe dans Jam, que j'avais beaucoup aimé, et puis Nadia Tereskevich, une présence magnétique, et puis cette île comme un refuge, l'isolement qui convoque tout un imaginaire évidemment du film sur une île, le pitch de science-fiction aussi qui nous projette dans le futur, la dystopie, tout cela ça a aussi mon intérêt, une menace de mort imminente, inéluctable, donc ça aussi ça peut faire planer une tension, mais finalement j'ai trouvé l'ambiance un peu trop froide, donc ça manquait de chaleur, ça manquait de sensualité pour le propos, trop mécanique sur la forme, ça se veut peut-être un conte philosophique sur la fin de vie, mais finalement ce conte philosophique devient trop pontifiant avec des dialogues d'une simplicité naïve qui m'a un peu désarçonné, je dois le dire. Et au final, je me suis demandé voilà, où était Alante Cavaite, qu'a voulu dire la cinéaste, donc sur la mort, la liberté, la vieillesse éventuellement, mais au final, rien n'a pris sur moi. J'ai trouvé voilà, tous les dialogues tombés à plat, certains gros plans en contre-champ sur, sur Miu Miu appuyer le pathos. Donc finalement, voilà, j'ai tout été lourd, et pour moi, ça manquait de légèreté, ça manquait de jeu, parce que le film avait quand même en lui beaucoup de possibilités de jeu, un aspect ludique, et en fait le film manque cruellement d'humour et cruellement voilà, de cet aspect ludique sur, sur les éléments de la mise en scène, sur les éléments des personnages, voilà, tout était lourd, pontifiant et un peu trop peut-être lénifiant même.
Oui, c'est vrai que le film n'est pas exempt de défauts, de mise en scène, même parfois de scénario. Tu dis qu'il manquait d'humour, en même temps, c'est quand même une histoire assez tragique. C'est un film sur la mort et sur l'inéluctable mort qui nous attend tous. Donc il y a quelque chose d'assez dur dans cette histoire, d'assez triste aussi, de ces personnages qui essayent de vivre jusqu'au bout. Effectivement, c'est un conte philosophique et en ça, il y a quelque chose d'assez intéressant, d'assez original dans le paysage du cinéma français de proposer un film comme ça. Donc malgré ses défauts, effectivement, je trouve que l'audace est à souligner. Et puis, le fait qu'elle ne se positionne pas vraiment sur une morale à la fin, à Alante Cavaite, c'est assez passionnant parce que ça a l'heure aujourd'hui des interrogations sur la fin de vie, des grandes questions, que faut-il faire de nos vieux, que devons-nous faire avant de mourir, faut-il vivre jusqu'au bout quitte à se mettre en danger ou au contraire préserver la vie un maximum quitte à supprimer certains de ses plaisirs. C'est un vrai débat, c'est une vraie question sur laquelle c'est difficile d'avoir un avis définitif et je trouve ça intéressant que ces deux avis sont partagés quelque part entre le personnage de Nadia Tereskevich et le personnage de Daphné Patakia, qui l'un représentant effectivement la protection de la vie et l'accompagnement des personnes âgées, l'autre l'allégresse, le plaisir, etc. Jusqu'au bout. Et en tant que spectateur, on peut être pour l'un ou pour l'autre, contre l'un et contre l'autre, être en désaccord ou pas, ça nous interroge véritablement et effectivement à nouveau à l'heure où c'est des vrais débats de société intéressants, je trouve que c'est assez passionnant de voir un film qui par la fiction nous encourage à nous questionner là-dessus, donc rien que pour ça je trouve ça effectivement assez intéressant. Belladone.
Voilà, je vais pas rappuyer sur le champignon, on va enchaîner.
Ой, хто ж вам сказав, що я слабка? Що корюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка колі, ви чули, раз я завела жалі голосіння. Тож була буря весняна, не знала.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
À l'instant, chanson interprétée en ukrainien par Shura Rusanova. Et je remercie Delphine Malocena qui a composé cette chanson. Donc c'est pour nous un titre inédit à vous faire découvrir, puisque jusqu'alors, cette chanson n'est disponible que dans le film de Charlène Favier, Oxana, biopic donc de Oxana Tchatchko. Delphine Malocena, juste pour situer, elle a fait Chien de la casse, qui avait été nommé au César pour la musique. Et puis, très active, elle a fait Hiver à Sotchko ou encore Cassandre, sorti récemment.
C'est donc Oxana de Charlène Favier, Ukraine 2008. La jeune Oxana et son groupe d'amis multiplient les actions, slogan peint sur le corps et couronne de fleurs dans les cheveux, contre un gouvernement arbitraire et corrompu. C'est la naissance d'un des mouvements les plus importants du 21e siècle, Femen. Réfugiée politique, artiste, activiste, Oxana franchira les frontières et militera sans relâche pour le droit des femmes et la liberté, jusqu'à risquer sa propre vie. Donc, le nouveau film de Charlène Favier après Slalom, il y a quelques années, qu'on avait découvert au Festival de Cannes 2020, si je ne dis pas de bêtises. Festival de Cannes hors Festival de Cannes, puisque c'était pendant le confinement. Qu'en avez-vous pensé, Bernard, Benoît?
Alors, je précise, le film sort le 16 avril, voilà, donc on est en avance sur la sortie du film.
Pour une fois.
Moi, c'est plutôt positif, hein. Alors, je craignais que ce soit un biopic des Femen, avec tout ce qui est de conventionnel sur relater un combat militant, etc., de manière conventionnelle. Et ce que je trouve bien dans ce film, c'est que justement, elle met sa mise en scène et le ton du film au diapason du combat militant. C'est-à-dire qu'elle ne va pas rajouter de la convention à un combat qui, justement, veut s'échapper des carcans qu'on impose. Et donc pour cela, elle fait quoi? Elle prend un personnage qui échappe à toutes les cases. C'est-à-dire que Oxana, non seulement elle est une combattante solitaire, anarchiste, mais elle ne trouve pas sa place dans la société, ni au sein du collectif qui la rejette à un moment donné. Donc moi, j'ai beaucoup aimé en fait ce côté femme désabusée. C'est vraiment un portrait de femme qui échappe, voilà, à tous les carcans qu'on veut lui affubler. Et puis elle est artiste, donc ça met aussi en abîme le geste artistique de Charlène Favier, qui se projette également dans cette femme artiste. Qu'est-ce que être une artiste aujourd'hui? Donc le portrait d'une artiste est aussi très intéressant dans ce film. On épouse un peu son état mental du personnage, son mal-être. Et donc le film va constamment décoller du réel pour avoir la mise en scène va justement comme ça élever le personnage dans une fantasmagorie, presque parfois dans des scènes cauchemardesques. Et je trouve que ce film qui décolle du réel est aussi très intéressant là-dessus. On sent la rage, on sent la fragilité, on sent le poids des idéaux qui s'entrechoquent sur cette femme. Donc c'est un récit à la fois fragmenté, hein, donc il n'y a pas de chronologie. Donc il y a quelque chose comme ça d'impressionniste qui vient capter des émotions, des sentiments, des sensations. Donc on la voit un peu entre une exposition parisienne, entre des actions militants. On la voit aussi dans sa romance avec celle qui l'héberge à Paris, Apollonia, qui est une artiste reconnue. Donc il y a à la fois aussi, c'est aussi un film un peu choral, donc on a à la fois le portrait d'une femme, mais on a aussi tous les personnages secondaires intéressants qui témoignent un peu comme les idéaux de la jeunesse, qui viennent se fracasser sur une dure réalité. Donc voilà, je trouve le film à la fois complexe et puis très, très puissant sur la psyché féminine du personnage. Et elle avait déjà traité d'ailleurs la psyché féminine, notamment dans son premier film, Slalom. Donc elle sait traiter des portraits tout en nuances.
Oui. Bernard.
Oui, bah, y a des liens évidemment avec Slalom qui racontait comment une jeune adolescente subissait l'emprise de son professeur incarné par Jérémy Régnier, voilà, qui était un film assez fort. Et voilà, c'est une autre manière de travailler cette question, cette question aussi de l'émancipation, de la liberté, etc., à travers ce film-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement le portrait d'une femme éminemment mystérieuse, puisqu'elle va mettre fin à ses jours à un moment donné. Et ça, l'histoire le sait, puisque c'est un personnage réel, et on sait qu'elle s'est suicidée en 2018. Donc, qu'est-ce qui a fait que... Voilà, c'est toujours mystérieux, un suicide. Donc, qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, après tout ce qu'elle a traversé et tout ce qu'elle a créé, elle a mis fin à ses jours. C'est aussi intéressant la manière dont Charlène Favier ancre vraiment son récit presque sous la forme d'un conte à travers cette fête de la nuit de Kupala qui ouvre et qui ferme le film et qui permet aussi d'établir le récit sous un signe mystique, aussi une relation forte avec son environnement. Mais moi, j'aurais préféré que il y a aussi l'idée de l'histoire, de raconter l'histoire des Femmes. Et ça, c'est un autre fil du film. Et à la limite, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est attaché vraiment au pas de Oksana Shchatko. Mais parfois moins de raconter le mouvement des Femmes. Et je trouve le film un peu plus plat, en tout cas un peu moins révolutionnaire dans sa forme, cette façon de suivre ce récit-là. En enchaînant les moments cruciaux de la vie de ce mouvement, le moment où elle trouve, par exemple, le nom des Femmes, par exemple, c'est des moments attendus, des moments un peu prévisibles, le moment où elles font leurs premières actions, il y a des moments clés comme ça.
On sent que c'est pas ça qui intéresse Charlène Favier.
En même temps, elle le raconte, donc c'est enchaîné comme ça, c'est des moments clés qui sont enchaînés, je trouve, sans forcément trouver que le film trouve son rythme là-dedans. Et donc, moi, c'est mon bémol du film, quoi. Je trouve le film un peu parfois un peu plat, manquant de relief, mais le personnage est fort. Évidemment, le mouvement est hyper important, c'est un des mouvements importants du XXIe siècle, enfin raconté dans un film. Et puis, évidemment, prenant une autre dimension dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Puis, le film prend une autre dimension inattendue, et qui n'était pas du tout prévue au départ, puisque je crois que la jeunesse du film a commencé bien avant la guerre.
Oui, même si la guerre commence déjà dès 2014, combat des Femmes s'inscrit aussi dans le contexte de cette guerre, ce qui n'est pas très bien expliqué dans le film, mais qu'on comprend si on tisse effectivement des liens de pourquoi elles vont en Biélorussie, pourquoi est-ce qu'elles combattent le Poutine particulièrement, c'est parce que le combat des Femmes s'inscrit aussi dans un contexte politique qui est celui-ci. Non, je vous trouve bien gentil envers cette chère Charlène Favier. Moi, je pense que c'est le plus mauvais film que j'ai vu depuis le début d'année, et de loin. J'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à aller jusqu'au bout, pour plusieurs raisons. Effectivement, Bernard, tu soulignais qu'il y avait un peu deux histoires dans cette histoire. Il y avait l'histoire politique du mouvement Femmes, et puis l'histoire personnelle, intime, d'Oksana Shchatko, donc ce personnage effectivement assez mystérieux qui a fait un peu l'actualité il y a quelques années, mais dont on ne sait finalement pas grand-chose, qui est à mi-chemin entre la militante et l'artiste engagée. Deux sujets passionnants l'un comme l'autre, qui pourraient être traités tous les deux dans le même film, pourquoi pas. Mais là, j'ai l'impression qu'elles n'en traitent aucun des deux. C'est-à-dire, sur l'aspect combat politique, chacune de leurs actions relève complètement de l'anecdote. Elles se retrouvent à se battre pour tel ou tel sujet sans qu'on comprenne véritablement les raisons de ce sujet-là précisément, si ce n'est de grandes phrases sur l'Ukraine, c'est le paradis pour la prostitution, etc. Mais il n'y a rien qui nous ancre ça dans une réalité concrète. Donc, quand on regarde le film, on se dit « Ah oui, ok, d'accord, mais... » C'est pas très intéressant et on se sent pas non plus bouleversé par cette histoire. Quant à l'histoire qui semble effectivement intéresser davantage Charlène Favier, personnelle d'Oksana Shchatko, elle est quand même exempte complètement d'émotion. À aucun moment on ressent de l'affection pour ce personnage. Faut dire que l'actrice est quand même très mauvaise aussi. On sent qu'elle l'a castée parce qu'elle ressemblait véritablement. Elle ressemblait un peu. À Oksana, et puis un problème aussi qu'on retrouve beaucoup déjà dans Slalom, c'est que parfois Charlène Favier, elle est un peu séduite par ses actrices et elle sait pas tout à fait très bien les diriger. C'est un peu un problème récurrent et qui est assez fort ici. Finalement, elle se suicide à la fin. Et tu dis, Benoît, que cette histoire, elle est par instant, un peu dans le désordre. Pas du tout, en fait. Elle est dans un ordre très concret. C'est une histoire construite avec deux chronologies parallèles. L'une qui est celle de la naissance de son engagement artistique et politique en Ukraine, et l'autre de ses derniers instants, de ses derniers jours de vie à Paris. Structure classique de mélange de narration, mais pourquoi pas, effectivement, intéressante. C'est intéressant de voir les deux en regard et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ces derniers jours à Paris qui mène à ce suicide. Il ne s'agit pas d'expliquer, parce qu'effectivement, un suicide, ça reste mystérieux, on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on ressente sa détresse, sa tristesse, sa profonde solitude intérieure. Tout ça nous est dit de manière très explicite dans le scénario, mais à aucun moment on le ressent, moi j'étais complètement en froid par rapport à cette histoire, tout à fait, ça m'a désintéressé complètement. Et pourquoi? J'ai essayé de comprendre pourquoi. À mon avis, parce que le problème de Charline Favier, c'est qu'elle ne s'intéresse pas du tout au personnage qu'elle met en scène. Son personnage principal, c'est Oksana, ok, peut-être qu'elle s'y est intéressée, mais l'ensemble des personnages secondaires, elle en a à peu près rien à faire. Je prends un exemple, la scène par exemple avec la journaliste qui est jouée d'ailleurs par Anne Kessler, la Comédie Française, un tout petit rôle comme ça de discussion journalistique. On a une discussion, alors nous on connaît bien effectivement ce type de situation d'interview. C'est pas crédible à un seul instant qu'une journaliste lui dise « Ah, ben, t'aimerais bien que j'écrive ça plutôt dans l'article, ça vous va, etc. » Et elle qui est froide, qui répond rien, etc. Tout est complètement stéréotypé et on sent qu'à aucun moment, Charline Favier s'est posé la question de à quoi ressemblait une véritable interview avec une journaliste. Plus tard, on arrive à la piscine où on a une scène entre Oksana et une histoire, une relation sexuelle éphémère se crée entre elle et un nageur. Ils sont tous les deux à la piscine. Elle est à la piscine. Elle a pas de bonnet de bain. On est à Paris. Parce que quand même, les bonnets de bain sont obligatoires.
Franchement.
Non, mais c'est pas un détail. C'est pas un détail. Ça a l'air d'être un détail. C'est pas un détail. Pourquoi c'est pas un détail? Parce que toute cette scène est mise en scène sur la séduction. Le fait qu'elle est très belle, etc. Qu'elle le séduit. Or, elle a les cheveux détachés, elle a ses longs cheveux, etc. On a quelque chose qui est créé autour de ça. Et ça, ça pourrait paraître anecdotique, mais ça se répète à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. On n'a aucun intérêt dans la réalité des choses, dans le concret. Et pour un film qui est un sujet qui est autant ancré dans le concret, autant ancré dans des problématiques contemporaines, ça me semble vraiment problématique de ne pas s'intéresser à la réalité du monde. Et à aucun moment, elle s'en intéresse. C'est qu'un personnage prétexte pour raconter une histoire prétexte. Donc moi, le film m'a profondément ennuyé et un peu révolté.
c'est intéressant, comme avec Belladone et celui-ci, par exemple, on a des avis contraires. Par exemple, moi, tout ce que tu dis là, j'aurais pu le ressentir sur Belladone, le côté un peu hors-sol. Et là, je trouve,
mais Belladone est volontairement hors-sol, puisque c'est un film métaphorique.
Oui, ouais. Mais là, je trouve ici, justement, que j'ai ressenti, en tout cas, parce que je fais confiance à mon ressenti, même si, évidemment, c'est parfois peut-être que je me fais mon propre film, hein, je ne suis pas là-dessus, voilà, mais j'ai ressenti ce déracinement, cette quête identitaire, et finalement, le côté... J'ai ressenti aussi les montagnes russes. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel, on est vraiment au basque du personnage, passant de la colère à la tristesse, de l'espoir à la désillusion. Et justement, je trouve que vraiment, on peut dire que c'est un thriller psychologique, plus qu'évidemment une chronologie des faits mêmes. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas.
C'est certainement une volontaire de la part de la réalisatrice. Après, moi, je ne l'ai pas vraiment ressenti de ce côté-là, puisqu'à nouveau, ce n'est pas assez creusé, ce n'est pas assez travaillé, quoi, en fait, comme film.
Très bien, et bien c'était Oksana de Charline Favier, qui était d'ailleurs la deuxième réalisatrice du programme après la réalisatrice Alante Kavaïté. Est-ce que ce troisième film au programme va nous mettre d'accord? Suspense. Il s'agit à l'instant, évidemment, vous aurez reconnu les variations Goldberg de Bach. C'est le seul moment musical du film. Hein. On entend ce moment parce que le personnage de Luisa Guerra le joue au piano lors d'un cours de piano. Sinon, tout le reste du film se passe presque de mots et de musique. Ce film évoquant des fantômes dans une maison bourgeoise à la lueur de la chandelle.
À la lueur de la chandelle d'André-Gilles Matar. Film portugais, donc nous sommes au nord du Portugal, deux femmes partagent leur quotidien depuis 60 ans dans une maison qui semble encore habitée par les générations qui les ont précédées. Présent, passé proche et lointain, cohabitent dans cette demeure imprégnée de souvenirs et de fantômes. Alzira, la maîtresse des lieux, s'est consacrée à un mari austère, renonçant à son goût du piano et de la peinture. Béatrice, la domestique, a dédié sa vie à l'entretien des lieux et aux enfants d'Alzira. Elles sont désormais arrivées au soir de leur vie. Béatrice se plaint de son corps fatigué. Alzira, libérée par la mort de son mari, prend pour la première fois une décision qui n'appartient qu'à elle. Alors, à la lueur de la chandelle, avez-vous regardé ce film à la lueur de la chandelle, avec beaucoup de plaisir, de bonheur, Benoît, Bernard?
On peut rappeler, enfin dire, énoncer que c'est le troisième long-métrage d'un cinéaste qui a fait l'école de Bellatar. Déjà, ça pose un peu son cinéaste contemplatif, et qui a fait déjà beaucoup de films et qui a voulu travailler la figure de sa grand-mère, qui est marquée en tout cas apparemment par sa grand-mère, qui a fait plusieurs films, au moins trois, une sorte de trilogie. C'est le troisième film après un film expérimental, un documentaire autour de cette figure. Donc cinéma contemplatif, comme tu disais Benoît, extrêmement sonore mais peu dialogué, attentif aux gestes, au corps, au comportement. J'avoue que le début du film est très intriguant, avec donc ce plan, vraiment une sorte d'arabesque comme ça dans le jardin d'une maison. Il y a un plan assez compliqué, parmi les fleurs, c'est très coloré, on arrive dans cette maison qui est véritablement en plus un personnage du film. C'est un film de maison, on pourrait dire ça aussi, c'est un genre en soi en fait, le film de maison. On pourrait y inclure aussi des films comme Air, des choses comme ça, ou Présence, dont on parlait la dernière fois, quoi, finalement, même si évidemment c'est complètement différent ici. Et puis voilà, c'est ces deux personnages qu'on suit au quotidien, qui partagent un quotidien, et on suit les moindres de leurs gestes. Et puis, ce qui fait, je trouve, le grand intérêt, peut-être, ou la grande singularité du film, c'est ces fameux flashbacks qui vont raconter leur histoire, leur moment clé, notamment le mariage forcé de la... on pourrait appeler ça comme ça, de la maîtresse de maison. Et des flashbacks qui sont assez habiles parce qu'ils nous permettent de vraiment de sauter d'une époque à l'autre, dans la coulure d'un plan, dans la mise en scène d'un décor de cette maison-là. Donc c'est assez intéressant la façon dont formellement ils travaillent notamment le décor et la mise en scène. Après, je trouve le film extrêmement référencé à plein de niveaux. Et ça me gêne un peu de pas trouver justement la singularité, je l'ai dit, à travers les flashbacks, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui appartient vraiment à André Gilmata dans ce film, enfin, hormis effectivement le rapport personnel au personnage et à cette histoire. Mais à chaque fois, on peut penser à des références picturales, que ce soit à Merchoy dans la mise en scène des intérieurs, des cadres, de la profondeur de champ extrêmement travaillée, comme les tableaux de ce peintre danois qui peignait ses intérieurs intimistes. La monteuse du film, c'est Claire Atherton, à Clareton, la monteuse d'Ackerman. Donc évidemment, on pense à Ackerman parce qu'il y a un côté Jeanne Dielman dans le film.
Le dire,
voilà, je t'ai piqué la référence. Mais aussi, on peut penser à Tarkovsky, on peut penser à Oliveira. Voilà, donc quelque part, bon, après, comme c'est un film de fantôme, c'est aussi autant un film de fantôme du récit du film, de ce que raconte le film, de sur un plan intimiste et personnel du cinéaste, mais un plan de fantôme de cinéaste aussi, quelque part.
Eh bien, dans ce film, il y avait tous les ingrédients pour me plaire, et il m'a plu. Là, je suis vraiment été scotché par ce film, un film qui prend son temps, et j'aime, moi, prendre mon temps dans un film, au rythme lent des souvenirs, qui flotte comme ça dans cette vieille maison du Portugal, les silences qui en disent long sur le poids des années, des liens invisibles comme ça entre les personnages au fil du temps. Le récit ne s'embarrasse pas, comme on l'a dit, d'une intrigue complexe, hein, c'est une immersion dans le quotidien, une journée fragmenté par les saisons, passé et présent se confondent. On est happé comme ça dans une atmosphère mélancolique, douce, amère, de ces deux femmes sans action spectaculaire. Donc on pense évidemment à Chantal Ackerman, ou notamment une des femmes qui fait la cuisine pendant une séquence assez longue. Hein. On pense donc à Jeanne Dielman, Tarkovsky, Oliveira, comme tu viens de le dire. Y a l'attention portée aux détails, à la lumière. C'est un film très pictural. Hein. La composition est très très sophistiquée. Cette maison n'est pas un simple décor, hein, c'est aussi, elle respire la culture portugaise. On sent que chaque objet a une histoire, chaque recoin de la maison a une âme. Donc c'est une existence, un personnage en soi. Le dispositif de la mise en scène, je trouve aussi remarquable au niveau de la lumière. Le choix du 16 mm, ai-je lu, une texture comme ça particulière, une patine qui renforce hein, le sentiment d'un temps suspendu. Des mouvements de caméra assez rares, donc on peut, notre regard peut circuler comme ça dans les recoins de la maison. Donc le spectateur a sa vraie place pour faire son propre récit sur ce qui nous est présenté, donc rien nous est imposé à notre regard. Donc moi j'ai vraiment fait mon film aussi dans ces plans magnifiques. J'ai été très en fusion avec ce film, en contemplation je dirais.
Contemplation, oui, effectivement, ça s'y prête bien. Non, mais c'est effectivement, sur le papier, c'est un sujet, et pas que sur le papier d'ailleurs, mais c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Le scénario même, hein, ces deux femmes qui vivent ensemble depuis des années, qui se parlent à peine et qui se détestent profondément, alors qu'elles devraient, on imagine qu'il devrait y avoir dans leur solitude, dans leur détresse, à chacune, une sorte de sororité féminine, qu'elles devraient se réunir. Mais non, parce qu'au-dessus de leur problème de femme, elle a un mari violent, etc., de leurs problèmes de solitude, du sujet féministe, en quelque sorte, se dresse un autre sujet qui, quelque part, l'emporte sur le premier et ne converge pas complètement, qui est le sujet de la classe sociale. C'est qu'à aucun moment, ces deux femmes ne pourront être amies, ne pourront être ensemble, parce qu'elles appartiennent à une classe sociale différente. Et ça, c'est, je trouve, il y a quelque chose d'assez passionnant à analyser là-dessus. Ça fait beaucoup penser à Annie Ernaux, ça fait penser à Virginia Woolf aussi, Une chambre à soi. Enfin, il y a quelque chose d'assez fort, beaucoup de références littéraires aussi. On a parlé des références picturales, mais il y a quelque chose aussi dans ces analyses de solitude qui est assez fort. Il faut dire aussi, préciser qu'au Portugal, il y a cette tradition de domesticité, y compris chez des familles qui ne sont pas forcément de très très grande richesse, puisque là on voit que c'est une bourgeoisie, disons ancienne, un peu désargentée, puisqu'on voit que cette maison est grande, mais un peu vieille, abîmée, etc. Et que malgré tout, il y a cette relation entre ces deux femmes. Donc sur l'enfermement, sur la solitude féminine, c'est assez passionnant. C'est effectivement très beau aussi, hein, ce 16 mm très coloré, et ces plans très travaillés. Après, il y a un rythme qu'il faut quand même suivre, hein. Faut être en forme quand on va le voir. Faut pas être trop fatigué, disons. Tu mentionnais, Bernard, ce plan très beau du début, qui est effectivement un très beau plan, très long aussi. Quand Régine Mata va nous répéter quand même plusieurs fois, oui, donc au bout d'un moment, on a un peu compris.
Il aime beaucoup les arbres.
Oui, il aime beaucoup les arbres, et puis c'est pour comprendre le déroulement des saisons, parce que le temps passe. Voilà, il y a des choses qui sont pas non plus d'une finesse absolue dans la manière dont c'est représenté. Donc, disons que c'est un film à voir en ayant en tête qu'on va chez un disciple de Bellatar, qu'on va sur un cinéma contemplatif, qui prend son temps. Mais malgré tout, une fois ça pris en compte, je pense que qui a un peu des défauts, mais que c'est malgré tout un film assez intéressant et assez passionnant sur son sujet, sur la manière dont il traite ses destins féminins, et qui est quand même d'une assez grande violence aussi sur la vieillesse. Un autre film sur la vieillesse, assez dur et assez triste dans la manière dont il le dépeint.
Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'on se soit un peu mis d'accord quand même sur ce film, À la lueur de la chandelle, recommandation donc de Vive le cinéma. Et maintenant, la séquence intermède avec nos recommandations, et on retrouve pour ma recommandation deux personnages féminins centrales.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc les deux femmes dont, que j'évoquais sont deux sœurs dans ce film de Mike Leigh, deux sœurs, et on entend la musique de Gary Yershon, et une partition vraiment fabuleuse, hein, peut-être une des meilleures partitions du mois. Ils retrouvent, d'ailleurs c'est un tandem, hein, ils se retrouvent après Be Happy, Another Year, Mr. Turner ou Peter Lou. Cette partition donc avec une viole d'amour, des altos quelque peu grinçants et des flûtes gracieuses, un motif régulier comme ça qui subit des variations au fil du film et qui reflète l'état émotionnel instable du personnage, car au cœur de ce film, il y a donc cette femme, Pansy, aux troubles obsessionnels compulsifs, qui engueule tout le monde, on la sent au bord de la dépression, fortement marquée par une anxiété, et puis à côté d'elle, sa sœur cadette, Chantal, une coiffeuse célibataire pleine de joie de vivre. Donc ce film qui est fort parce que c'est un portrait de femme en dualité, en quelque sorte, avec d'un côté la morbidité et de l'autre côté la joie de vivre et le côté positif, donc elles se répondent l'une et l'autre. Et donc c'est vraiment un traitement, un drame psychologique, hein, qui vient sculpter comme ça le fond des âmes humaines, ce que sait faire Mike Leigh, évidemment, depuis les débuts. Le casting est formidable, les actrices incarnent avec bravoure une intensité rare de femmes tourmentées d'un côté et une révélation de part et d'autre. Une vulnérabilité poignante se dégage, et leur interaction comme ça, qui est vraiment paraît d'une fluidité assez puissante. Et puis surtout, voilà, le sujet central, c'est la santé mentale, un sujet qui est d'ailleurs dans l'actualité aujourd'hui dans la société française, et donc c'est un film qui ose aller vraiment de front sur les complexités de la santé mentale et comment l'environnement familial et l'environnement amical va traiter ce sujet, va réagir sans stigmatiser, sans répondre à la méchanceté par la méchanceté. C'est vraiment un film puissant, donc pour moi, Deux sœurs de Mike Leigh.
Bernard, ta recommandation ?
En fait, je voulais juste rappeler qu'avait lieu en ce moment le Festival du film de femmes de Créteil, le 47e Festival du film de Créteil, festival qui a subi cette année plusieurs coupes budgétaires importantes. Aligre aime ce festival, on lui a consacré ces dernières années deux émissions spéciales, et il a lieu en ce moment à la Maison des Arts de Créteil notamment, hein, mais dans d'autres salles aussi, même à Paris, parce qu'il s'est ouvert vendredi dernier avec un film restauré de Vera Shtilova, Quelque chose d'autre, qui est un film de 63. On pourra voir d'ailleurs d'autres films de Vera Shtilova cette semaine, je crois que c'est mercredi soir. Et puis, il va se clore dimanche 13 avril avec le film Toxique, film lituanien de Saulė Bliuvaitė, qui est une histoire d'amitié dans le milieu concurrentiel d'une école de mannequinat. Et donc, il y a toujours des compétitions internationales, de fiction, documentaires, courts-métrages. L'invité d'honneur cette année, c'est Isabelle Carré. Il y a déjà eu la masterclass ce week-end, puisque le festival donc, a commencé vendredi dernier. Donc, il y a eu beaucoup d'événements ce week-end. Il y a eu notamment, je crois, la projection du film Les Loups, Isabelle Prime également, mais la rétro Isabelle Carré n'est pas terminée, je crois, puisqu'il y aura cette semaine Les Sentiments de Noémie Lvovsky qui est présenté, et puis des avant-premières, et ce lundi soir, on aura l'avant-première du film d'Alex Poukine, Sauf qui peut, au cinéma du Palais à Créteil. Et je voudrais juste dire un mot d'un film magnifique qui est sorti, puisqu'on parle beaucoup on a choisi des films qui parlent beaucoup de nature et de spiritualité, on va dire. Bon, là, c'est plus la nature au cœur de la montagne, avec Vermiglio de Maura del Perro, qui est à Lion d'Argent à Venise. Et on pense beaucoup au cinéma d'Hermano Olmi, à l'Arbre au Sabot, notamment dans ce film-là, qui est vraiment magnifique, et qui en même temps est extrêmement contemporain, un regard contemporain féminin. C'est un film romanesque, tragique, au cœur de la montagne, Vermiglio. Vous pouvez aller le voir encore en salle, il marche plutôt bien.
Que oui. J'ai vu en effet aussi, j'ai des réserves, mais en tout cas, oui, plastiquement, par rapport à la lueur de la chandelle, il peut y avoir des échos.
Oui, tout à fait.
Pas vu encore, mais je le rattrapais. Mais j'avais envie de partager aussi un autre film qui est question de nature, donc je sais pas, quelque chose de thématique. Faut dire, aujourd'hui, pas tout à fait la même nature, mais un mot sur Harvest, le très étonnant film de la grecque Atina Rachel Tsangari. Harvest, ça veut dire moisson en français. Atina Rachel Tsangari, c'est une proche de Yorgos Lanthimos, donc on a toujours ce cinéma, même s'il est très très différent, mais très très travaillée plastiquement et très complexe, disons, sur sa, dans sa narration. On y découvre la vie d'un village à une époque indéterminée, dans le passé vraisemblablement, peut-être la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, on ne le saura jamais, dans un lieu flou, vraisemblablement la Nouvelle-Angleterre, puisqu'il s'agit de colons tout au plus de seconde génération qui parlent tous anglais, mais à nouveau, pas sûr, peut-être que c'est autre chose. Tout cela est volontairement opaque, et pour cause, ce n'est pas un film historique, c'est une fiction, un conte presque, un conte philosophique, comme pour rappeler un autre film dont on a parlé tout à l'heure. Et dans ce village, tout le monde vit en parfaite harmonie, sous la houlette du gentil seigneur, joué par le trop rare Harry Melling. Souvenez-vous, c'était Dudley Dursley dans Harry Potter, il a pas mal changé, mais on le reconnaît malgré tout, et c'est un très bon acteur, je trouve. Mais un jour, un homme arrive au village, un homme venu faire ce que personne n'avait pensé faire jusque-là, cartographier le domaine, mettre des cartes, des plans, délimiter des espaces. Puis d'autres hommes arrivent et on comprend vite que le village va changer de main, une sombre histoire d'héritage à laquelle le faible seigneur se résigne sans trop protester. Alors on parle rendement agricole, productivité, pour les villageois le monde change, ils ne peuvent rien faire. Un peu comme Belladone, donc, Harvest est un film métaphorique, une sorte de parabole, mais il n'y a rien de prêt à penser dans ce film, qui est d'ailleurs une richesse formelle exceptionnelle, et certains plans, avec les costumes parfois étonnants des personnages, rappellent tantôt des peintures sacrées de la Renaissance, tandis que d'autres font passer au paysage foisonnant de Hans Bruegel l'Ancien. D'ailleurs, l'affiche française rappelle de manière très équivoque des peintures de Bruegel l'Ancien. Et Harvest nous donne donc des matières à réflexion sur l'idée de communauté, de soumission à des valeurs, de libéralisme, de capitalisme. Faut-il se méfier des cartographes ? Bah, la réponse, c'est en salle le 16 avril.
Il est malin ce petit Pierre, comment reparler de Belladone comme ça en sous-main.
Ah, n'est-ce pas ?
En tout cas, j'avais beaucoup aimé Attenberg de cette réalisatrice, mais j'ai pas vu celui-là.
À voir le 16 avril.
À l'instant, musique de Frédéric Hofmeyer, qui signe la musique du thriller danois Magnus Van Horn, La jeune fille à l'aiguille. On sent ces sonorités électroniques, acoustiques mélangées, générant une certaine tension, un certain mystère aussi.
La jeune femme à l'aiguille de Magnus von Horn, Copenhague, 1918. Caroline, une jeune ouvrière, lutte pour survivre. Alors qu'elle tombe enceinte, elle rencontre Dagmar, une femme charismatique qui dirige une agence d'adoption clandestine. Un lien fort se crée entre les deux femmes et Caroline accepte un rôle de nourrice à ses côtés. Alors, vous êtes bien amusé, Benoît, Bernard, devant ce film ?
Amusé à cet instrument de torture, je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment. Alors, je précise que j'ai vu le film à Cannes, donc il y a un an quasiment. Et c'était pour moi un des grands rejets du Festival de Cannes. Alors, évidemment, on enchaîne beaucoup de films, etc. Alors, quand on se retrouve avec le quatrième film de la journée qui nous enferme dans un dispositif que j'ai considéré à la fois académique. Et en même temps malaisant, c'est un film léché à l'extrême qui évoque un certain cinéma d'antan, hein, à la fois expressionniste mais en même temps très théâtral et jusqu'au jeu très appuyé des comédiennes et comédiens, et donc il y a à la fois ce côté très théâtral, très figé, et en même temps quelque chose de macabre, une pulsion de mort et de voilà, donc, et puis en même temps des références, on pense à Elephant Man avec un visage défiguré, on pense à Bergman, mais sans aller vraiment dans justement la puissance psychologique. On reste, je trouve, dans le littéral, dans quelque chose de très démonstratif, dans cette mise en scène théâtrale, voilà, les décors soignés mais qui sonnent faux. J'attends une étincelle qui ne viendra jamais. Rien ne parvient à jaillir en termes d'émotion ou de même d'effroi. Voilà, donc je vais vous laisser peut-être le défendre.
Bah, on te montre bien ce que le film lèche, d'ailleurs. Parce qu'il faut quand même être maso pour aller voir un film comme ça, où, en fait, c'est le portrait d'une femme qui souffre, qui a un mari gueule cassée, elle se fait martyriser, elle n'a plus d'argent, elle perd son logement, etc., etc. C'est une spirale infinie. Oui, c'est vrai que c'est compliqué quand même d'inciter les gens à aller voir ce film-là. Je rappelle juste que c'est tiré d'un fait divers, qui a eu lieu au début du XXe siècle, qui est une femme serial killer qui tuait des enfants. Alors on se demande, une fois qu'on sait ça, quand est-ce que ce personnage arrive ? Et ben, elle arrive plutôt dans la deuxième partie du film, donc il y a quand même pas mal il y a quand même un chemin de croix d'un autre personnage féminin pour en arriver à ce fameux personnage de tueuse d'enfants, qui est incarné d'ailleurs par Trine Dyrholm, qui est une actrice assez formidable qui a débuté, je crois, dans Festen, et qui après, en tout cas, a été récompensée pour un rôle dans La Communauté, et qui a interprété Nico aussi au cinéma. Et là, c'est un rôle assez terrifiant. Bon, à la limite, effectivement, j'ai beaucoup parlé de ça, mais c'est vrai que formellement, il y a quand même des choses intéressantes, parce que là aussi, il y a de la référence, enfin, le film se...
En noir et blanc,
En noir et blanc, mais un noir et blanc qui vraiment rappelle le cinéma primitif, et notamment le cinéma primitif suédois, danois évidemment avec Dreyer, mais suédois avec Sjöström, qui aussi racontait beaucoup d'infanticides dans ses films. Et puis, il y a cette photo de Michel Dimek, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui est un chef-op assez étonnant, un jeune chef-op qui est assez, qu'on commence à voir dans pas mal de films, puisqu'il avait signé la photo de Eo de Skolimowski, et il a signé aussi, plus étonnant, la photo de Real Pen, le film de Jesse Eisenberg, qui est sorti récemment.
Parce qu'il est polonais.
Polonais. Donc,
c'est un film qui se passe en Pologne.
Ouais, c'est ça. Bon. Mais voilà, une production américaine, mais voilà, c'est étonnant parce que c'est pas du tout le même type de photo, mais je trouve qu'il arrive aussi, effectivement on pense au cinéma primitif, mais il y a beaucoup de mouvements dans la mise en scène et dans la caméra, dans l'utilisation de la caméra, qui est assez, je trouve intéressante, qui permet à la limite pour moi de sauver un peu le film, qui est quand même bien noir... Mais voilà, Yamazo aussi, quelque part.
Le film est monstrueux, quoi, parce qu'il y a le côté très théâtral figé, et en même temps, il y a des espèces d'incises complètement violentes, presque de films d'horreur, on peut le dire. Et je trouve que les deux aspects du film, cette tête bicéphale, ne m'a pas convaincu, Pierre.
Oui, c'est vrai que c'est un film quand même extrêmement violent. Il y a deux, trois scènes qui sont assez glaçantes. Enfin, une en particulier, sans trop dévoiler, qui a fait déjà beaucoup de bruit à Cannes et dont on ne sort quand même pas indemne, qui est quand même assez particulièrement violente et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma, par ailleurs. C'est vrai que vous mentionnez effectivement le cinéma un peu d'antan. Ça fait un peu penser à ces écrivains contemporains qui décident d'écrire un livre comme on écrivait des romans feuilletons au 19e siècle, quoi. Il y a ce côté un peu presque d'un film à l'ancienne, d'une grande histoire, d'une passion véritablement, hein, puisque c'est comme tu disais un chemin de croix, quelque chose de profondément tragique. Il y a presque un côté presque sad porn, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de plus en plus horrible ce qui lui arrive, donc il y a une espèce de plaisir malsain qui se met en place à voir l'horreur tomber sur les épaules de cette pauvre femme. On pense aussi au Ruban blanc de Michael Haneke, qui était aussi en noir et blanc et qui avait aussi ce côté un peu particulièrement difficile, disons. Après, ça reste très très beau plastiquement, ça... C'est assez étonnant parce que le précédent film de Magnus von Horn, Sweat, était ultra contemporain, ultra coloré, puisque ça racontait la vie d'une influenceuse. Là, on est sur un film ultra cadré, ultra avec ce noir et blanc très très marqué, très contrasté. Donc il est capable de faire des choses assez différentes avec toujours une attention assez forte à l'image. Après, c'est vrai que ce côté un peu too much, au bout d'un moment, ça devient un peu, ça peut devenir un peu exaspérant, à condition... sauf en y allant, en se disant bah ok, on va voir ça et qu'est-ce qui peut lui arriver de pire encore, dites-nous donc. Bon, c'est il y a de ça d'intéressant, mais au-delà de ça, bon, voilà, un peu trop, disons.
Bon, allez, prenons l'air, respirons un peu dans les alpages de Provence.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Grand orchestre à l'instant composé par Philippe Bro pour les grands espaces des montagnes de Provence. Nous entendons cet orchestre et puis aussi ces cuivres qui installent comme une fanfare au sein des brebis pour ce drame québécois Berger.
Berger de Sophie Desrapes sur un coup de tête. Mathias troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence. Il espérait trouver la quiétude, il découvre un métier éreintant et des éleveurs souvent à bout. Mais quand il rencontre Élise, qui elle aussi vient de tout quitter, il se voit confier un troupeau de 800 moutons et s'engage dans une transhumance. Ensemble, ils vont traverser les épreuves de la montagne et se façonner une vie nouvelle. Voilà, c'est Mathias, sa vie nouvelle. Benoît, Bernard...
Bonsoir, qui parle, le détracteur ou le laudateur?
Non, moi, je ne suis pas laudateur, je suis très partagé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu... Voilà, une naïveté confondante, le personnage comme cela. La voix off, parfois, vraiment, c'est en trop. Donc, espèce de voix off un peu poétique qui vient installer une ode à la nature. Donc, il y a un peu cette naïveté confondante et la musique participe de cette naïveté confondante, cette candeur, mais finalement, cet idéalisme un peu naïf confère au film, au final, c'est là où j'ai été conquis, la dimension d'un conte, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'il faut rentrer dans ce film, non pas comme un documentaire sur le métier de berger, quoique on apprend beaucoup de choses sur comment être un berger, mais je pense que cette image d'Épinal, finalement, loin de toute complexité du métier, m'a conquis sous la forme d'un conte, voilà, avec des envols de caméra, les paysages grandioses, le dépaysement, un profond sentiment de sérénité, puis il y a aussi une romance au milieu de la montagne, donc il y a beaucoup de clichés évidemment, il y a ce pastoralisme aussi, cette montagne qui est le berceau du pastoralisme, donc il y a beaucoup de clichés, mais en même temps voilà, c'est le propre d'un conte parfois d'aller vers ce type de climat, voilà. Et puis la chronique initiatique, c'est là où ça m'a conquis aussi, c'est que on est avec ce personnage qui va apprendre à devenir berger, qui va découvrir les montagnes alors qu'il vient de la grande ville du Québec. Donc voilà, il y a aussi cette initiation. C'est un peu le Candide, à la fois de Voltaire et des montagnes de Provence.
Encore un conte philosophique, bah dis donc, on aurait été gâtés cette semaine, Bernard.
Alors oui, le Candide ou le Bobo, parce que c'est vraiment cette idée que il y a vraiment...
C'est Zadig et Voltaire.
C'est Zadig et Voltaire, c'est ça.
Pas mal.
Ça incarne, Berger, c'est le film qui incarne les années post-Covid, la quête de sens, je suis resté enfermé pendant des mois, donc maintenant je veux quitter mon job de publicitaire et aller à la montagne, devenir berger, etc.
Oui, d'accord.
Et donc c'est voilà, hyper naïf, effectivement, et le film déroule son programme, c'est ce que je lui reproche au aussi, c'est hyper sans surprise. C'est pas du tout crédible. Là, pour le coup, la scène de la sous-préfecture, quand il va à la sous-préfecture pour demander son visa et qu'il il tombe sur une fille, forcément, et avec qui il va avoir une histoire, qui est jouée par Solène Rigaud. Enfin, voilà, les dialogues sont terriblement plats, scolaires, pas du tout incarnés. Le film n'a pas du tout d'inspiration pour moi de mise en scène et aucun lyrisme, ça décolle jamais pour moi, je suis prodigieusement ennuyé.
Ouais, en même temps, je ne peux pas défendre ce film et descendre Belladone, voilà, mais mitigé. Ouais.
Oui, il y a des choses qui sont effectivement pas crédibles du tout, et la scène de la préfecture est un très bon exemple. Cela dit, on avait une scène... pas de préfecture, mais à l'OPFRA, dans un autre film dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Oksana, qui était encore moins crédible, mais bon, c'est pas très grave. Après, je trouve que, pour le coup, il y a des choses qui sont vraiment beaucoup plus crédibles dans le travail au quotidien de Berger, et on sent que Sophie Dérap s'y est véritablement intéressée, de comment est-ce que... Quelle est la problème, surtout qu'elle est québécoise, donc c'est a priori un sujet assez éloigné d'elle, la problématique des bergers en Provence, en France, qui est une vraie problématique aujourd'hui. Sophie Dérap, elle avait fait précédemment Antigone, que j'avais vraiment détesté, donc j'avais... très peur à l'idée de voir ce film Antigone qui avait vraiment pour le coup une dimension conte philosophique très forte, puisque c'était une adaptation contemporaine de la tragédie grecque dans le Montréal d'aujourd'hui, avec le problème d'immigration rajouté au problème d'une femme qui combat une société, donc bon, sujet assez lourd. Là, effectivement, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce personnage de Mathias, qui est à la fois complètement naïf et en même temps plein de certitudes, avec des avis définitifs sur tout. C'est pas un personnage très aimable, et ça, c'est ce que j'aime bien au début, c'est que c'est un personnage assez désagréable et qui a vraiment une vision de ce voyage, de ce retour à la nature, qui est une pure vision de Bobo, et je pense que c'est assumé comme tel. Et donc, c'est intéressant de le voir confronté... à la réalité, notamment toute la problématique du loup. Que faire du loup, qui est une vraie question. Est-ce qu'il faut chasser le loup parce qu'il détruit les brebis et il détruit des troupeaux, ou au contraire, faut-il le protéger parce qu'il fait partie de la nature et de son écosystème? C'est un vrai débat, et à nouveau, le film nous pose vraiment cette question et nous empêche d'être dans un truc complètement... manichéen entre l'un ou l'autre. Je trouve ça assez intéressant, ça, la confrontation à la réalité, et en même temps, c'est pas non plus un film dans lequel on a quelqu'un qui a un idéal, qui est confronté à la réalité, et son idéal vacille complètement. Il essaye de s'accrocher à cet idéal coûte que coûte, quitte à changer lui-même et quitte à changer les autres. Il y a quelque chose d'assez intéressant malgré tout, si on enlève l'histoire d'amour dont on s'en contrefiche complètement, et pas mal de petits détails. La voix off me dérange moins, parce qu'il lui-même écrit son histoire, parce qu'il a aussi une vision très romantique de son métier et de son rêve, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression que j'en ai eue, je suis pas sûr que ce soit forcément volontaire de la part de la réalisatrice, mais qu'il y a pas mal de recul finalement vis-à-vis de ce personnage qui est assez intéressant.
Et Berger, je crois, sort bientôt, s'il n'est pas encore dans les salles.
Sur le 9, il sort mercredi.
Mercredi cette semaine, très bien. Pour Berger, eh bien, je crois que l'émission est terminée. Tu voulais rajouter quelque chose?
Non, je voulais juste remercier nos réalisateurs du jour, Loredana Farina et Enrico Mastrogiovanni, pour cette table ronde critique.
Et puis, personne n'a vu Cassandre autour de la table?
Non. Voilà. Ah, tu rajoutes un film comme ça, là, à last minute, allez.
C'est parce que c'est la chanson. C'est parce que c'est la chanson de fin, évidemment.
Autant pour moi.
Cassandre, donc la Delphine Malocena, que j'ai déjà citée tout à l'heure pour Oksana, a fait la musique originale de Cassandre, mais on va terminer avec une chanson dans le film. Alors, le film est assez dur, hein, il relate le processus psychologique de Cassandre, 14 ans victime des abus de son frère, mais il y a un moment de danse. Donc, c'est comme parfois des moments de respiration dans les films, de danse, de chant, où on respire un peu, et c'est le cas, avec ce There's a Light par James Lee et Shirley Ann Lee pour Cassandre, donc, et ça me permet aussi de citer un métier dont on parle très peu au cinéma, encore moins que les compositeurs, compositrices, c'est les superviseurs musicales. Donc il y a Laurine Arnoux-Sanchez, la supervision musicale de ce film, qui a été en charge donc de négocier les droits, et en l'occurrence là, d'après ce que j'ai entendu, elle a même choisi ce morceau, donc c'est aussi une implication artistique pour ce film. Cassandre, donc, avec There's a Light. Merci de nous avoir suivis.
Merci.
There's a light in my life shining over me.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.